VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 10 novembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les titres. Au Tchad, les deux principaux opposants, Succès Masra et Max Lohangar, assurent se cacher pour leur sécurité. Demande de saisine de la CPI. Au Sénégal, inculpation et incarcération d'un journaliste critique du pouvoir, Pape Alenyang. En RDC, face au M23, Goma en alerte, vol d'aéronefs, militaires et patrouilles terrestres en ville. Le président Joe Biden salue un bonjour pour la démocratie au lendemain des élections de mi-mandat ici aux États-Unis. La Russie annonce son retrait d'une ville clé en Ukraine, un revers cinglant. À suivre dans notre page sport, l'international sénégalais Sadio Mané blessé, incerté pour le mondial 2022 au Qatar. Ne manquez pas la Minute Écho pour l'instant, le journal. Les deux leaders de l'opposition politique au Tchad, Succès Masra et Max Lohangar, ont annoncé hier devoir se cacher par crainte pour leur sécurité 3 semaines après une manifestation réprimée dans le sang. Le point avec Michel Joseph.
Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a assuré par téléphone à l'AFP avoir traversé clandestinement la frontière terrestre vers un autre pays. Il se dit recherché par la garde présidentielle. De son côté, Max Lohangar, coordinateur et porte-parole de la plateforme d'opposition Wakit Tama, a assuré être entré en clandestinité quelque part dans le pays pour échapper à une arrestation. Le 20 octobre, une cinquantaine de personnes ont été tuées par balles et plus de 300 autres blessées à N'Djamena et dans d'autres villes. Les forces de l'ordre avaient violemment réprimé des manifestations contre la prolongation de 2 ans de la présidence du général Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du pays. Le 20 avril 2021, après la mort du maréchal Idriss Déby, son fils Mahamat Déby, alors âgé de 37 ans, a été placé à la tête d'une junte de 15 généraux pour une période de transition de 18 mois.
Merci Michel Joseph. Maintenant, concernant le Sénégal, inculpation et incarcération hier à Dakar de Pape Alenyang, directeur de Dakar Matin, un site d'information privé critique du gouvernement sénégalais. Il est connu au Sénégal pour ses chroniques régulières sur l'actualité. Les charges retenues contre lui sont la divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, le recel de documents administratifs et militaires et la diffusion de fausses nouvelles de nature a jeté le discrédit sur les institutions publiques, a indiqué un de ses avocats, Cheikh Kouraissi Ba. Pape Alenyang avait été arrêté dimanche après-midi et placé en garde à vue pour des publications qui ont coïncidé avec l'interrogatoire récent de l'opposant Ousmane Sonko par la justice. La détention de l'opposante béninoise Rekia Madougou est arbitraire. Et l'ancienne garde des Sceaux doit être libérée immédiatement, estime un groupe de travail de l'ONU. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a conclu que l'arrestation et la détention dépourvues de base légale de Madame Madougou sont arbitraires. Selon ce groupe, l'opposante n'a pas bénéficié du droit à la présomption d'innocence et le tribunal n'a pas fourni la preuve de son implication présumée dans une entreprise de financement d'assassinat. Ce groupe, dont les conclusions ne sont pas contraignantes, estime que l'opposante devrait être libérée immédiatement avec le droit d'obtenir une indemnisation. Rekia Madougou est détenue depuis mars 2021 au Bénin. Elle a été condamnée à 20 ans de prison, accusée d'avoir financé l'assassinat de personnalités politiques pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle, des faits qu'elle conteste. L'ancienne ministre de la Justice, dont la candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021 a été rejetée, a été arrêtée quelques semaines avant le scrutin qui a vu le président Patrice Talon être réélu pour un second mandat avec plus de 86% des voix.
Le président français Emmanuel Macron s'est donné hier 6 mois supplémentaires pour définir une stratégie en Afrique. Ce délai témoigne des difficultés de l'ex-puissance coloniale à conserver son influence sur le continent face à une opinion de plus en plus hostile. Abdourahmane Dia.
Emmanuel Macron a confirmé la fin officielle de l'opération Barkhane, admettant que la suite reste à définir. Nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés, pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des bases militaires françaises actuelles au Sahel et en Afrique de l'Ouest, a-t-il déclaré, tout en promettant qu'une stratégie sera finalisée d'ici 6 mois. L'armée française a achevé en août son départ du Mali après 9 ans de présence. Mercredi, le ministère des Armées a confirmé des échanges nourris avec les autorités locales en évoquant des partenariats sur la formation, le renseignement et les équipements. Depuis la rupture avec le Mali, on insiste sur le fait que Barkhane, ce n'est pas terminé, puis maintenant que c'est terminé, constate Denis Toll, spécialiste du Sahel à l'Institut allemand pour les relations internationales et la sécurité. Le projet français en Afrique se heurte à une opinion africaine de plus en plus hostile.
En République démocratique du Congo, vol d'aéronefs militaires dans le ciel de Goma, patrouille terrestre en ville. La grande cité de l'Est est restée en alerte hier, mercredi au lendemain de frappes d'avions et d'hélicoptères de combat sur des positions des rebelles du M23. Après une journée sans affrontement, une reprise des combats a été signalée mercredi soir par des habitants à Goma vers la ligne de front située à environ 30 km au nord de la ville sur la route nationale 2 au niveau de la localité de Rogari. Il y a des détonations de bombes. L'armée pilonne les positions du M23 vers Bukima, un village à quelques 8 km du centre de Rogari, a expliqué un de ses habitants. Sur le front est, en revanche, à Bunagana, localité à la frontière ougandaise sous contrôle de la rébellion depuis le mois de juin, la situation est calme. La majorité de la population est revenue ce matin, a déclaré une habitante.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a salué hier mardi un bonjour pour la démocratie au lendemain des élections de mi-mandat, bien que son parti démocrate ait résisté à la vague républicaine annoncée. Il devra probablement affronter une chambre des représentants à majorité conservatrice. Les résultats définitifs des élections ne sont pas encore connus. Le point avec Eric Manirakidza.
Joe Biden savourait visiblement la bonne performance des démocrates et envoyait un message de fermeté aux républicains. Les Américains ont envoyé un message clair et sans ambiguïté sur le fait qu'ils veulent préserver notre démocratie et protéger le droit de choisir dans ce pays, a souligné le président Biden. Et ce fut un bon jour, je pense, pour la démocratie et je pense que ce fut un bon jour pour l'Amérique, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le dirigeant démocrate s'est dit prêt à travailler avec l'opposition républicaine, affirmant être ouvert à toutes les bonnes idées, mais il a fixé plusieurs lignes rouges sur la sécurité sociale, l'avortement ou encore le changement climatique. Monsieur Biden a aussi redit avoir l'intention de briguer un second mandat en 2024, précisant qu'il confirmerait en début d'année prochaine. Près de 24 heures après la fermeture des premiers bureaux de vote, l'Amérique attendait encore de connaître le sort de plusieurs scrutins décisifs et très disputés, comme en Arizona ou dans le Nevada. Mais les républicains étaient bien placés pour prendre, certes de justesse, le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que le sort du Sénat restait en suspens.
Eh bien, concernant la majorité prochaine au Sénat des États-Unis, elle pourrait bien dépendre une nouvelle fois des électeurs de l'État de Géorgie qui devra voter à nouveau le 6 décembre pour désigner l'un de ses 2 sénateurs après qu'aucun des candidats n'a atteint mardi la barre des 50%. La Russie a essuyé mercredi, un nouveau revers majeur dans son assaut contre l'Ukraine en annonçant le retrait de ses forces de Kherson, une capitale régionale du sud ukrainien, cible d'une contre-offensive de l'armée de Kiev. Ce repli décidé après le déplacement de quelques 115 000 habitants de la région de Kherson par les forces d'occupation russes sonne comme une cinglante défaite pour Moscou, déjà contraint d'abandonner la région de Kharkiv en septembre. On note que le président russe Vladimir Poutine avait ordonné le 21 septembre la mobilisation de quelques 300 000 réservistes pour consolider les lignes russes. Des dizaines de milliers d'entre eux sont déjà dans des zones de combat. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Les États-Unis ont lancé à la COP27 en Égypte un partenariat public-privé pour accélérer la transition énergétique des pays en développement. L'annonce de ce partenariat avec la Fondation Rockefeller et le Fonds Bezos pour la Terre a été faite hier par l'émissaire américain pour le climat John Kerry. Des entreprises achèteront des crédits carbone pour financer la transition dans des pays comme le Nigeria. Monsieur Kerry s'est défendu des critiques sur cette mesure, assurant que les entreprises devront utiliser ces crédits en plus et non pas à la place des réductions de leurs propres émissions. Le président ougandais Yoweri Museveni a fustigé la réouverture en Europe de centrales à charbon face à la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine, alors que le vieux continent demande aux pays africains de ne pas utiliser de combustibles fossiles. L'incapacité de l'Europe à atteindre ses objectifs climatiques ne devrait pas être le problème de l'Afrique, a-t-il déclaré, accusant l'Europe d'utiliser les combustibles fossiles de l'Afrique pour sa propre production d'énergie, tout en refusant l'utilisation par l'Afrique de ces mêmes combustibles pour la sienne. L'opérateur de satellite Eutelsat Communications a signé un accord avec le fournisseur d'Internet sans fil Tizeti pour la couverture du territoire nigérian par le haut débit dans les régions mal desservies. Le haut débit par satellite Connect permettra des services Internet rapides et abordables dans les zones reculées difficilement accessibles par les infrastructures terrestres. Selon Eutelsat, l'objectif est de permettre à 1 million de personnes en Afrique subsaharienne d'accéder au haut débit au cours des 5 prochaines années.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Idrissa.
Sadio Mané absent samedi avec le Bayern et incertain pour le Mondial 2022.
Eh oui, l'incertitude plane sur sa participation mondiale 2022 au Qatar à 12 jours de l'entrée en lice du Sénégal. Le 21 novembre contre les Pays-Bas, l'international sénégalais s'est blessé à l'extrémité du péroné droit lors de la victoire du Bayern Munich contre le Werder Bremen et sera absent pour le match des Munichois à Schalke samedi. L'annonce de la blessure d'Obalomboua, le sorcier du ballon, le surnom de Mané et la possibilité d'un forfait mercredi matin nourrit de grandes inquiétudes au Sénégal. Sadio Mané est l'élément clé de l'équipe d'Aliou Cissé qui doit annoncer sa liste de joueurs pour le Mondial vendredi.
Retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération saison 2022-2023.
L'AS Real de Bamako a validé son ticket pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération saison 2022-2023. Les Scorpions de Bamako, comme on aime appeler les joueurs de l'AS Real, ont battu Royal Léopard d'Eswatini sur le score de 3-1. C'était hier mercredi au stade du 26 mars de Bamako. Ce match rentre dans le cadre du retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération saison 2022-2023. À l'aller, faut-il le rappeler, Royal Léopard d'Eswatini et l'AS Real de Bamako avaient fait un match nul d'un but partout. Pour le coach de l'AS Real, Nouhoum Diané, l'enjeu de la rencontre était connu, c'est ce qui a été la source de motivation.
Je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que nous avons pu réaliser. Les joueurs qui sont en train de tout donner, le président, il a fait tout ce qui était possible réellement pour que l'objectif puisse être vraiment atteint. On était conscient réellement que ça sera un match très difficile.
C'était Noam Diané, coach de l'AS Real, et qui était au micro de notre correspondant Siaka Traoré à Bamako.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le décompte des voix se poursuit dans certains États clés après les élections de mi-mandat tenues mardi pour décider du contrôle du Congrès américain. De nombreuses courses sont encore trop serrées pour des projections de victoire dans l'un ou l'autre camp. Plusieurs heures après la fermeture des bureaux de vote, il n'est toujours pas clair si les démocrates conserveront leur mince majorité à la Chambre basse et au Sénat ou si les républicains prendront le contrôle. Un reportage de Catherine Gibson, repris ici par Gaby Dorsil.
Les Américains votaient ce 8 novembre sur la direction que prendra leur pays au cours des deux prochaines années, choisissant s'il était temps de confier le pouvoir législatif aux républicains ou si le président Joe Biden continuerait d'avoir le soutien d'un Congrès démocrate. Mary Crooks est employée retraitée de l'éducation.
And then you have these Republican appointed Supreme Court
justices. Et puis il y a ces juges de la Cour suprême nommés par les républicains qui nous privent de nos droits. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai vécu dans ce pays toute ma vie et c'est effrayant pour moi en ce moment. Ce qui se passe, c'est effrayant.
À Las Vegas, l'électrice Robin Robbie n'a pas caché son soutien pour le Parti républicain.
Je voulais voter pour plus de conservateurs parce que je suis conservatrice. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais sortir voter. Je vote tout le temps, donc ce n'est pas nouveau.
Plus d'un tiers du Sénat américain et toute la Chambre des représentants étaient en jeu cette année. Les républicains n'avaient besoin de gagner qu'un siège supplémentaire au Sénat pour surmonter la faible majorité des démocrates. Ces derniers ont subi une défaite précoce en Floride, où la députée Val Demings n'a pas réussi à battre le sénateur républicain Marco Rubio.
Quand vous voyez les résultats à travers ce pays, c'est de cela qu'il s'agit. Les gens qui font la grandeur de ces pays ont été oubliés.
Mais à la mi-journée mercredi, le contrôle du Sénat était encore incertain. En Géorgie, Raphaël Warnock et Herschel Walker semblaient destinés à s'affronter dans un second tour le 6 décembre, aucun des deux n'ayant remporté plus de 50% des suffrages, comme l'exige cet État. Contrairement aux prédictions des sondages, la vague rouge propulsée par les candidats pro-Trump au Parti républicain ne s'est pas matérialisée, bien que le parti ait eu de bons résultats, comme par exemple dans l'Ohio où Tim Ryan, le démocrate, a perdu face à J.D. Vance.
Je promets à tous mes amis qui seront au Sénat, à tous mes amis qui seront à la capitale de l'État. Nous avons besoin d'un meilleur leadership à Washington, D.C. Et c'est exactement ce pourquoi je promets de me battre chaque jour.
La victoire en Pennsylvanie du démocrate John Fetterman lors d'une soirée extrêmement tendue marquée par un laborieux dépouillement des suffrages offrait à M. Biden l'espoir de conserver le contrôle de cette chambre où les républicains avaient jusqu'ici un léger avantage dans les sondages. Historiquement, le parti au pouvoir perd les élections de mi-mandat. Donc la performance des républicains n'est pas surprenante, surtout à la chambre basse. Néanmoins, le succès des démocrates va certainement faire l'objet de beaucoup de commentaires dans les jours et semaines à venir.
Sur le plan extérieur, les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient avoir un impact significatif sur l'Ukraine, où le soutien américain est inestimable dans l'effort de guerre. Les réactions à Kiev avec Miroslava Gongadze de la VOA, le récit avec Lionel Gahima.
Dans les rues de Kiev, les gens ne s'inquiètent pas seulement de la prochaine attaque russe, mais aussi de la façon dont les élections américaines se déroulent et comme elles vont affecter le soutien à l'Ukraine. Les Ukrainiens espèrent que, peu importe qui prendra le contrôle du Congrès, l'aide va se poursuivre. Mykola Daviukyuk est un analyste politique à Kiev.
Nous n'avons pas de favoris ou de partis que nous aimerions voir gagner. Notre objectif principal est de poursuivre les partenariats pour recevoir des armes, de l'argent et un soutien politique, géopolitique et diplomatique.
Selon lui, avoir les États-Unis comme partenaire est crucial et il estime que les remarques des républicains et des démocrates relèvent davantage de la rhétorique de campagne que de l'évolution de la politique américaine.
Je suis plus convaincu que le soutien va rester. Nous ne sommes pas seulement que de bons amis, mais nous sommes aussi des partenaires avec des valeurs communes. Nous sommes tous deux pour la démocratie et luttons contre l'autocratie et la dictature.
Cependant, certains de ses collègues voient des problèmes potentiels avec le soutien continu des États-Unis. Vladimir Fetsenko, analyste politique.
Nous pouvons être confrontés à un problème si la majorité républicaine accentue son opposition et adopte un regard plus critique sur les propositions budgétaires de l'administration Biden. Comme ils l'ont déjà dit, plus de chèques en blanc. Ils vont essayer d'avoir plus de contrôle sur le processus budgétaire et contrôler les dépenses.
Dans les rues de Kiev, les Ukrainiens gardent espoir de l'engagement ferme des États-Unis pour gagner et se relever de la guerre.
Je pense que le soutien va continuer. Il est vraiment nécessaire et je pense qu'ils le comprennent.
Je suis inquiète. Je voudrais que le soutien continue. Nous gagnerons plus rapidement. Nous aimerions que ceux qui le fassent continuent à le faire, pas seulement pendant la guerre.
J'espère que le soutien va continuer, sinon nous gagnerons de toute façon par nous-mêmes.
D'après l'Institut Kiel, qui surveille l'aide à l'Ukraine, l'engagement des États-Unis pour l'assistance militaire, financière et humanitaire dépasse les 52 milliards de dollars. Les pays et institutions de l'Union européenne ont promis plus de 29 milliards de dollars.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le président français Emmanuel Macron a confirmé hier la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Il s'est donné 6 mois pour finaliser la nouvelle stratégie de son pays en Afrique. Cela témoigne des difficultés de l'ex-puissance coloniale à conserver son influence dans la région face à une opinion publique africaine qui lui est de plus en plus hostile. Pour en savoir plus sur les rapports difficiles entre Paris et certains pays africains, Modibo Dambélé a joint le docteur Abdoul Sogodogo, doyen de la faculté des sciences juridiques et administratives de l'université de Bamako.
Ces dernières années, on remarque une remise en cause de cette relation appelée France-Afrique dans beaucoup de pays africains. Et la crise qui se vit au Sahel, et plus particulièrement la crise malienne, a exacerbé cette remise en cause de la coopération française avec le Mali. Cela est expliqué par plusieurs chercheurs à partir des résultats mitigés de la présence militaire française au Mali qui ne semble pas avoir donné satisfaction à la grande majorité des Maliens et qui s'interrogent sur le rôle effectivement de la France dans la lutte contre le terrorisme et dans le retour de l'État sur l'ensemble des territoires. Et dans cette période compliquée, justement, l'année dernière, on a vu Macron afficher une fois de plus sa volonté de redéfinir sa politique, la politique française vis-à-vis de l'Afrique, en convoquant à France des jeunes de la société civile.
Face à la montée du terrorisme, quel type de rapport la France doit-il tisser avec ses partenaires africains dont les populations locales sont penchées de plus en plus vers la Russie ou bien la Chine ou d'autres pays?
Je pense que la France, comme tout autre acteur qui veut accompagner les pays du Sahel de façon générale, doit travailler à la définition d'un plan stratégique à mettre en place avec ces pays-là. Quand on parle de plan stratégique, ça veut dire que c'est une démarche qui tient compte des besoins et des intérêts des différents acteurs intervenants. Justement, c'est ce qui semble être le problème au Mali, parce que n'oublions pas que la France était bien présente avant les événements de 2001, notamment le renversement du régime IDK. Le redressement de la transition a induit effectivement des modifications dans la stratégie malienne et la stratégie française. C'est peut-être à ce niveau-là que les différents acteurs n'ont pas réussi à se parler et à se mettre d'accord sur un plan consensuel. Et je pense que cette vision de la situation actuelle au Mali est partagée par d'autres pays qui aujourd'hui aussi interrogent le rôle de la France. Et donc, la solution, à mon avis, réside dans le dialogue, dans la concertation entre les différents acteurs, leur capacité à tenir compte des intérêts supérieurs et des besoins de toutes les parties impliquées déterminera dans les jours à venir l'efficacité ou toutes les stratégies réelles qui puissent être opérationnelles.
Nous sommes sur le terrain du politique. Je sais qu'il n'y a aucun problème entre les deux populations respectives, mais je parle sur le terrain politique. Est-ce que à ce rythme...
Justement, sur le terrain politique, je vois plutôt qu'on est dans une logique de renégociation. Et à écouter la France, ou en écoutant le Mali, vous entendrez dans le discours des autorités françaises que nous sommes auprès du peuple malien, du peuple sahélien. Et quand vous écoutez les officiels maliens, aussi les ténors de la politique extérieure, ils vous diront que nous sommes ouverts à une coopération avec tous les partenaires, mais nos exigences qu'on tienne compte de notre souveraineté, de nos intérêts. Ça veut dire que les deux acteurs sont dans une logique de redéfinir un peu leur rapport.
Le docteur Abdoul Sogodogo, doyen de la faculté des sciences juridiques et administratives de l'université de Bamako.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
L'opposant tchadien Succès Masra saisit la CPI après la répression du 20 octobre. Le leader du parti Les Transformateurs a mandaté des avocats du barreau français à l'effet de déposer sa plainte à la haie. Pour des précisions sur cette démarche, Jean-Roger Bion a joint à Paris l'avocat Vincent Brengard, l'un des conseils de Succès Masra et de son parti.
À la fois un sombre d'avertissement adressé par la communauté internationale, un nombre de décès et un nombre de blessés totalement alarmant, et le sentiment que de toute façon les juridictions au Tchad n'agiront pas pour mettre un terme à ces agissements et pour permettre que des investigations indépendantes soient menées, notamment compte tenu de la responsabilité des forces de l'ordre et des forces tchadiennes dans ces décès. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes tournés vers la Cour pénale internationale parce que nous considérons qu'il y a là matière à pouvoir caractériser un crime contre l'humanité justifiant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Alors, le gouvernement tchadien a accepté, contrairement à ce que vous venez de dire, le principe d'une commission d'enquête internationale. Pourquoi aller au-delà de cette commission ?
Rien ne permet de considérer qu'il va y avoir véritablement un revirement de la part des autorités tchadiennes, et en plus, le fait que de toute façon, ça ne peut absolument pas venir neutraliser la responsabilité pénale qui doit être d'ores et déjà acquise, compte tenu de ce qui s'est passé, et ce qui nécessite que des enquêtes indépendantes puissent être menées pour que toutes les responsabilités soient déterminées. Et quand je parle de toutes les responsabilités, évidemment, c'est quel que soit le niveau de responsabilité, étant rappelé qu'en vertu du statut de la Cour pénale internationale, eh bien, elle ne prend pas en considération la qualité de chef de l'État et de chef de gouvernement qui sont indifférentes à la responsabilité pénale qui peut découler des crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est une compétence.
Alors, vous avez déposé le dossier devant la CPI ce mercredi 9 novembre 2022. Qu'est-ce que vous avez fait précisément ? En quoi a consisté cette plainte ?
C'était un travail extrêmement fourni qui était opéré par notre cabinet depuis maintenant plusieurs semaines parce qu'il a fallu déjà réunir un nombre d'éléments. On a notamment d'ailleurs évidemment un nombre d'éléments publics, des rapports, des articles de presse, mais on a aussi des conseils d'huissiers, on a aussi un ensemble de photographies qui ont été prises sur place. Une fois que nous avons eu ces éléments, c'était de savoir si il nous apparaissait suffisant pour pouvoir caractériser un crime contre l'humanité au vu de l'article 7 du statut de Rome qui définit cette infraction. Et après une analyse juridique approfondie, eh bien, nous avons estimé qu'il y avait là suffisamment d'éléments pour pouvoir justifier le dépôt de cette requête devant la Cour pénale internationale qui fait pas moins d'une trentaine de pages et à laquelle donc sont annexés près d'une quarantaine de pièces. Et désormais, nous espérons véritablement que le procureur de la Cour pénale internationale prendra toutes les conséquences qui s'imposent compte tenu de ce signalement et compte tenu de la gravité des faits qui se sont déroulés. Donc ce sont les étapes que nous avons menées. Désormais, donc, nous attendons qu'une réponse soit faite à ce signalement.
L'avocat Vincent Brengart, l'un des conseillers de Succès Masra et de son parti. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler.